Bonjour à toutes et à tous
et bienvenue dans cette nouvelle émission de 100 pour Science.
Au micro, Dr Maïlys
et Dr Juliette.
C'est la quatrième et malheureusement la dernière.
Oh non. Bon, en tout cas, aujourd'hui au programme.
Les aurores boréales, un phénomène assez impressionnant.
Un micro-trottoir, puis Alexander Fleming, un héros en médecine.
Et enfin, nous vous expliquerons quelle est la relation entre les couleurs et la lumière.
Alors, accrochez-vous, ouvrez vos oreilles
et vos yeux,
parce que vous allez vous régaler avec les aurores boréales. Mais avant de commencer...
Fun fact!
L'estomac humain peut dissoudre des lames de rasoir.
Si vous deviez avaler une lame de rasoir par accident, ne vous inquiétez pas. Enfin, pas trop.
Le corps humain est plus fort qu'on ne le pense.
L'acide gastrique a un pH extrêmement élevé.
Si on y plonge une lame, elle se dissout en 2 heures.
Mais bon, évitez de manger des rasoirs, on ne sait jamais.
Tout d'abord, c'est quoi les aurores boréales ?
C'est un phénomène lumineux qui se produit toute l'année dans l'hémisphère nord.
Notamment en Islande.
Mais il n'y en a pas dans l'hémisphère sud ?
Si, mais elles sont appelées australes et non boréales.
Et quand est-ce qu'on peut les observer ?
Les aurores boréales ne sont visibles qu'entre septembre et avril, lors des nuits noires, où le ciel est dégagé.
Cet hiver, la nuit du 26 au 27 février, on a pu en observer en France. Incroyable, non ?
Mais comment ça se forme, une aurore ?
Les protons, électrons et le gaz qui se trouve en haute atmosphère terrestre entrent en collision.
Ainsi, de minuscules éclats lumineux remplissent le ciel et de milliards de petites lumières apparaissent.
Le champ magnétique de la Terre guide les particules vers les pôles, et la force du champ crée 2 ovales au-dessus des pôles magnétiques.
Vert, rose foncé, rouge, bleu et même mauve.
Que de belles couleurs!
Elles sont créées par un mélange d'oxygène et de nitrogène.
C'est vraiment trop beau!
Mais ne nous attardons pas trop là-dessus. Vous aurez les yeux pleins d'étoiles, enfin plein d'aurores.
Passons plutôt à...
Fun fact!
Les acariens n'ont pas d'anus.
Mais comment ils expulsent leur excréments?
Eh bien, arrive un moment où ils explosent.
Ils explosent.
Et oui, et c'est à ça que nous sommes allergiques.
Et quand il pète, il trouve son slip. Et quand il pète, il trouve son slip. Et quand il pète, il trouve son slip.
Laissons maintenant la place à notre micro-trottoir.
Nous avons posé une question aux élèves du LFB.
Est-ce que vous avez déjà pris des antibiotiques ? Si oui, pourquoi ?
Oui, parce que quand j'étais petite, j'ai eu l'appendicite.
Oui, pour une angine.
Oui, déjà plusieurs fois, et principalement pour le mal aux dents.
Non, parce que ma mère est herbologue.
Oui, pour une angine.
J'ai pris un antibiotique parce que j'avais une pneumonie il y a 3 ans.
Pour mon panari.
Oui, parce que j'avais un ongle encorné.
J'ai déjà pris des antibiotiques car quand j'ai eu une infection et chaque fois que je me faisais un peu mal, ça se faisait plus.
J'ai eu une pneumonie quand j'avais 7 ans.
J'en ai eu parce que j'ai eu une grippe.
Oui, parce que j'étais très malade.
Oui, mon cou s'est irrité autant que j'étais aphone et je pouvais plus parler.
Mais la vraie question est, savez-vous d'où ils viennent ?
Les antibiotiques ont été découverts par ceux qu'on considère aujourd'hui comme un héros de la médecine.
Il a, sans le savoir, sauvé des millions de vies. Et à ce jour, on utilise encore ces découvertes.
Vous savez de qui nous allons parler ?
D'Alexander Fleming, bien sûr !
C'est donc un médecin, biologiste et pharmacologue britannique.
Il est né le 6 août 1881 en Écosse et il est mort le 11 mars 1955 à Londres.
Avant de parler de sa fabuleuse découverte, quelles ont été ses études ?
Quand il n'avait que 13 ans, il rejoignit un de ses frères qui avait déjà une clientèle de médecins à Londres.
Là, il a suivi des cours à l'école polytechnique de Regent Street à Londres, tout en travaillant dans un bureau de navigation pendant 4 ans.
Encore étudiant, il entre en 1906 dans le service d'inoculation du laboratoire d'Almroth Wrightnoth. Il passe son diplôme de chirurgien en 1909 et devient chargé de cours à l'hôpital Sainte-Marie jusqu'en 1914.
Durant cette période, il a publié de nombreux articles concernant la bactériologie, l'immunologie et la chimiothérapie.
Durant la Première Guerre mondiale, Alexander Fleming commence à faire des recherches et à publier ses découvertes concernant les blessures de guerre. Il devient expert dans le domaine des staphylocoques dans les années 1920.
Le 3 septembre 1928, il enquêtait sur les propriétés de ces staphylocoques.
Il était déjà bien connu à cette époque en raison de ses premières découvertes et il avait la réputation d'être un chercheur remarquable,
mais négligent.
Il oubliait le plus souvent les cultures sur lesquelles il travaillait.
Et son laboratoire était d'habitude en plein désordre.
Comme votre chambre, quoi.
Après de grandes vacances, il remarqua que beaucoup de ses boîtes de culture avaient été contaminées par un champignon. Il les avait donc mises dans du désinfectant.
Devant montrer son travail à l'un de ses collègues, il récupéra certaines des boîtes qui n'avaient pas été complètement immergées.
Et c'est alors qu'il remarqua, autour d'un champignon, une zone où les bactéries ne s'étaient pas développées.
Il isola un extrait de la moisissure, l'identifia correctement comme appartenant au genre Penicillium. Et appela ses champignons
pénicilline. Alexander Fleming comprit très vite l'importance de sa découverte et l'exploita.
Il étudia avec succès ses effets sur un grand nombre de bactéries et remarqua que le champignon agissait contre elles, comme les staphylocoques et tous les pathogènes gram-positifs.
Comme par exemple la scarlatine, les pneumonies, la méningite et la diphtérie.
Super, on est sauvés!
Ouf! Bof, les choses vont se compliquer pour Fleming.
En effet, il publia en 1929 dans le British Journal of Experimental Pathology un article sur sa découverte qui n'attira que très peu l'attention.
Il continua tout de même ses recherches,
mais constata qu'il était difficile de cultiver le pénicillium.
En 1943, il réussit à guérir complètement un patient nommé Keith Rogers.
Ce cas clinique remarquable montrait alors qu'il pourrait être intéressant pour un chimiste de continuer dans cette voie et de mettre au point une forme stable de pénicilline.
En même temps qu'il s'adonnait à d'autres recherches,
Fleming continua jusqu'en 1935 à essayer d'intéresser un chimiste qui aurait assez d'adresse pour réussir à trouver une forme de pénicilline commercialisable.
C'est en 1940 qu'Ernest Chain trouva la façon d'isoler et de concentrer la pénicilline.
Il en théorisa correctement la structure.
Ils formèrent une équipe avec Fleming et un certain Norman Hatley.
C'est lui qui eut l'idée de transférer dans l'eau le composant actif de pénicilline pour changer son acidité.
Il put alors produire assez de médicaments pour commencer à faire des tests sur les animaux.
Le 12 février 1941, à l'hôpital Radcliffe d'Oxford en Angleterre,
le patient Albert Alexander reçoit pour la première fois au monde une injection de 160 mg de pénicilline.
C'est très peu, mais qui sait? Avec sa plaie au visage due à une piqûre de rosier, il parviendra peut-être à combattre l'infection.
Le lendemain, il va mieux.
Alors, les médecins poursuivent l'essai clinique.
Malheureusement, les jours suivants, l'état de santé de ce jardinier du dimanche se dégrade.
Albert Alexander décédera un mois plus tard, le 15 mars 1941.
À cet instant, on pourrait parler d'échec.
Et pourtant, c'est à partir de cette date que la communauté scientifique va espérer, développer et s'intéresser de bien plus près aux propriétés antibactériennes d'une substance découverte quelques années auparavant.
Par accident, on pourrait vous raconter l'histoire de comment les antibiotiques se sont commercialisés. Mais bon, ça, c'est une autre histoire.
Fun fact!
Les carottes améliorent la vue.
C'est n'importe quoi. En fait, on croit cela car les Anglais, pendant la Seconde Guerre mondiale, faisaient croire aux nazis que leurs pilotes voyaient de nuit, afin de cacher l'existence de leur radar.
Mais bon, il se peut que ce soit juste votre grand-mère qui veuille vous faire terminer votre assiette. On a déjà parlé des aurores boréales, mais maintenant il est temps de parler des couleurs. Mais avant de commencer, savez-vous qu'on ne peut pas imaginer une couleur que nous n'avons jamais vue ?
Essayez et vous verrez que c'est impossible.
Bon, on parle de couleurs, mais en fait c'est quoi une couleur ?
C'est notre perception à la lumière qui arrive dans notre œil directement ou après avoir réfléchi sur un objet.
Et la lumière dans tout ça ? Eh bien, selon la quantité de lumière, l'intensité de la couleur varie.
Si la lumière est faible, les couleurs seront plus sombres et moins intenses. Et si au contraire, la quantité de lumière augmente, la couleur s'éclaircit.
La couleur lumière, c'est la manifestation des rayons lumineux qui se superposent.
Notre œil ne peut percevoir que trois couleurs de base, le rouge, le vert et le bleu.
La superposition de certains ou de tous ces rayons peut faire en sorte que nous percevons de couleurs différentes.
Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, nous ne pourrions voir que trois couleurs de nos belles aurores.
Pour voir du jaune, notre œil doit recevoir un rayon rouge et un vert en même temps.
Pour faire du blanc, on a besoin de rayons bleu, rouge et vert.
En fait, une ampoule émet ces trois rayons en même temps.
Et enfin, si on perçoit du noir, c'est qu'aucun rayon n'est parvenu à notre œil.
Donc si je résume bien, à la base, il n'y a que trois couleurs primaires qui sont le rouge, le vert et le bleu.
Si elles se superposent à la même dimension, elles créent des couleurs lumière secondaires, c'est-à-dire le jaune, le cyan et le magenta.
Voilà, tu as tout compris.
Bon, eh bien, c'est parfait. Nous avons appris plein de choses.
Ça, c'est bien, mais malheureusement, on arrive à la fin de notre émission.
C'est la dernière de l'année et vous ne nous reverrez pas l'année prochaine.
Je vous dis à bientôt.
Et moi, adios compañeros.
Mais avant de se quitter, répondons à la question de notre émission précédente.
Quelle est la particularité de la crevette pistolet ?
Elle a une pince plus grande que l'autre.
Et maintenant, la question du jour.
Comment ont été inventés les antibiotiques ?
Répondez à notre question sur notre site web www.radiolfb.net.
Vous pouvez aussi laisser des commentaires et vous abonner.
Nous vous laissons avec Cake by the Ocean, interprété par DNCE.
Bye bye!
Bonnes vacances et
science à fond!
Let's start living dangerously. Living dangerously.